Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Benjamin Castaldi, l'enfant terrible du paysage audiovisuel, a grandi sous le regard du couple le plus légendaire du cinéma français. Simone Signoret, sa grand-mère, et Yves Montand. Un couple dont l'histoire d'amour raconte en fait une grande partie du siècle, artistiquement et politiquement, de Paris à Moscou, de Paris à Hollywood. C'est donc un récit d'une richesse prodigieuse que nous livre Benjamin, lui, le premier témoin, en faisant paraître aux éditions du Rocher « Je vous ai tant aimé ».
Europe 1.
Mais que ça fait plaisir de vous accueillir ici, Benjamin, vous qui,
merci de m'inviter.
Qui savez tout de cette antenne. Vous officiez il y a une vingtaine d'années.
Il y a 20 ans.
Oui.
20 ans, oui, c'était en 2001, 2000-2001, oui.
Et alors, oui. Cher Benjamin, Benjamin Castaldi, oui. Simone Signoret et Yves Montand auraient 100 ans cette année.
Oui, 25 mars pour ma grand-mère, donc voilà. Là, et Montand, 13 octobre.
Voilà, et bon, grâce au cinéma Signoret est à jamais Casque d'or ou La Veuve Coudert, Montand le héros de César et Rosalie, de Z ou le papé de Manon des Sources. Pourtant, vous avez le sentiment que le temps commence à user un petit peu la mémoire collective. Les gens de 25 ans ne connaissent pas le couple Montand-Signoret.
Bah, même 30 ans, hein. J'ai fait des tests. Moi, j'ai la chance d'avoir un public finalement aujourd'hui assez jeune. Je suis plutôt dans les 15-34, ils ne connaissent pas Montand.
Mais ça fait quand même partie de la culture générale.
Mais ouais,
donc...
mais oui et non, j'ai envie de vous dire. Parce que finalement, et on est peut-être responsable d'ailleurs avec ma mère, on n'a peut-être pas suffisamment soufflé sur les braises. Si je dois me faire un petit mea culpa, pour moi et pour ma mère d'ailleurs, et parce que ma mère, je pense que c'est très compliqué pour elle de parler de ses parents, mais moi, mes grands-parents, je m'en suis pas tellement occupé, ni quand ils étaient vivants, et finalement, a posteriori, dans les hommages, on ne s'est pas battu pour faire un tribute pour Montand à la télévision. On aurait pu faire une émission où il aurait chanté les chansons de Montand avec Bruel. On ne l'a pas fait. On n'a pas fait de rétrospective. On n'a pas sorti beaucoup de livres.
Voilà. Et voilà que soudain, les souvenirs se rappellent à vous. Mais quand même,
ça,
Benjamin Castaldi, je voudrais préciser que du vivant de votre grand-mère, qui est donc décédée quand vous aviez 15 ans, vous n'avez jamais vu aucun de ces films, dont la plupart sont des chefs-d'œuvre. Vous expliquez ça comment ?
Bah, je l'explique parce que, moi, vous savez, on dit toujours qu'on est la génération d'incultes de la précédente. Donc, mes parents étaient catastrophés, mes grands-parents catastrophés par mon inculture quand j'avais 15 ans. Parce qu'effectivement, quand on a 15 ans, moi, je n'avais pas de révélation culturelle énorme. Hein. J'avais pourtant été élevé devant une bibliothèque où il y avait tout Flaubert, tout Sartre, tout Montesquieu, tout. Mais alors, franchement, je n'avais pas du tout envie de les lire. Et quant au cinéma, je suis un enfant de Tarantino. Je suis Tarantino dans la culture. Donc, ce n'était pas du tout les films de mes grands-parents. Et le seul film, je crois, que j'ai vu, peut-être... Il y en a eu deux que j'ai vu avant sa mort. C'est L'Armée des Ombres, tout petit, parce que je me mets à pleurer devant la télé parce qu'elle meurt dans ce film. C'est pas décembre, rappelez-vous. Et certainement, peut-être Madame Rosa et la Veuve Coudert. Voilà.
Bon, et pourtant, Benjamin Castaldi, la complicité était forte avec cette grand-mère exceptionnelle qui n'était pas maternante, dites-vous, qui ne vous a jamais couché et bordé dans votre lit, ni fait cuire des pâtes, parce qu'il ne savait même pas comment on s'y prenait.
Non, savait pas ce que c'était.
Mais sa présence vous fascinait.
Sa présence était, d'abord, je vous ai dit présence, c'est le parfaitement dit, elle était effectivement présente. Mais... Ouais, quand elle s'asseyait quelque part, et quand elle vous regardait avec ses grands yeux bleus, ou ses grands yeux verts ou gris, ça dépendait du temps qu'il faisait dehors, et vous aviez l'impression qu'elle vous regardait dans les tréfonds de votre âme.
Donc, alors, voilà. Yves Montand est votre grand-père adoptif, mais les liens du sang sont parfois fantasques, car c'est plutôt... mais c'est plutôt au tempérament de Montand que vous avez le plus emprunté.
Ah, je pense que je suis totalement...
Allez, totalement quoi ?
Totalement façonné, construit, même dans la mimétique de vie. Alors, physiquement, j'ai rien à voir avec Montand. Il était très très grand, je suis tout petit. Mais Montand, c'est un homme qui m'a fasciné très jeune. Et on peut être fasciné par son père. Moi, j'étais... Et alors, attention, entendons-nous bien, mon père, c'est mon père. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le mec qui me fascinait le plus, c'était lui. Parce qu'il était d'abord, il avait un charisme hallucinant, parce que quand il arrive en voiture, c'est pas une Renault, c'est une Ferrari. Il était sapé, toujours parfait. C'est-à-dire que même lui, quand il était à la maison, qu'il mettait son peignoir et ses collants et ses chaussons répéto, il avait une classe folle. Moi, si je mets ça, je ressemble à rien. Voilà. Donc, et puis surtout, je crois que c'est un des mecs les plus drôles que j'ai rencontrés dans ma vie, parce qu'il était à mourir de rire. Ah, il pouvait être très dur, hein. Peut-être on en reparlera.
Ouais,
mais
bien
il
sûr.
Était très drôle.
Jamais Simone Signoret ne vous a emmené sur un plateau de cinéma, non. Mais Montand, lui, vous a embarqué quand vous aviez 5 ans sur le tournage du Sauvage de Jean-Paul Rapneau aux Bahamas avec Catherine Deneuve. Il en reste un album de souvenirs très particulier dans votre tête.
Particulier, d'une précision incroyable. Moi, quand je vois le film, c'est ma machine à remonter le temps. C'est que je me revois enfant quand il y a la scène où il épluche le poulet. Moi, je sais que je suis passé 4 fois dans le champ parce que je faisais certainement un pâté de sable à côté où je jouais avec un ballon, que le ballon m'échappait, que je devais repasser dans la scène. La fin du film où il est sur le ponton, où il a pris un coup de couteau. Ils ont mis un temps pour mettre la flaque de sang, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils se prennent la tête à ce point? Donc, toutes les scènes, quand le bateau coule au tout début avec Catherine Deneuve, j'étais là. Tout ce qui se passe sur cette île, j'ai assisté à 90% du film, à part ce qui a été fait à Caracas, le début du film.
Et pourtant, voilà. Ça ne vous a pas donné envie d'être acteur. Non. On va en parler tout à l'heure. Mais Benjamin, Signoret et Montand existaient indépendamment l'un de l'autre par leurs carrières respectives. Pourtant, leurs légendes sont liées. C'est l'histoire d'un aigle à deux têtes. Lequel avait le plus besoin du regard de l'autre?
Alors, je vais vous dire un truc. Je pense qu'on ne les a pas assez considérés comme étant une entité, les deux. C'est d'ailleurs pour ça que ce bouquin, j'en suis assez fier. C'est parce que j'ai...
Donc l'aigle à deux têtes, vous prenez?
Ah, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus Montand et Signoret, c'est Montand-Signoret. Parce que je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ils sont enterrés au même endroit, dans la couverture que ma grand-mère a tricotée.
Dans la couverture que votre grand-mère a tricotée.
Réunis pour l'éternité. Et je pense que les légendes qui faisaient de Montand l'être un peu bêtassoun, pas tellement intelligent, c'est une légende urbaine. Le fait de dire que ma grand-mère était un cerveau absolu, que c'était elle qui régissait tout, c'est faux aussi. Je pense qu'ils ont appris autant l'un de l'autre. Et je vais même vous dire, je vais même aller plus loin, je pense que ma grand-mère a certainement plus appris du passé de Montand, immigré italien, ayant fui le fascisme, ayant été à l'usine très tôt.
Elle dit d'ailleurs qu'elle a découvert en fait le monde ouvrier, le prolétariat, quand elle a rencontré la famille de Montand, la famille Lévy. Alors, ce qui est troublant, Benjamin Castaldi, c'est que, en fait, le temps semble ne pas être passé sur l'un comme il est passé sur l'autre. C'est au début de leur histoire, ils ont le même âge. À la fin de leur histoire, Signoret pourrait presque être la mère de Montand. Ça a pesé dans leur relation parce que lui mûrissait quand elle
vieillissait. Moi, je l'explique très bien dans le livre et je pense, c'est pas un secret, je suis maintenant absolument certain que l'épisode Marilyn, alors il a été tragique sentimentalement pour elle, mais professionnellement parlant, c'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu la suite de sa carrière. Parce que rappelez-vous, avant ce film, et c'est elle qui le disait, donc les guillemets que je mets, c'est les siennes, elle avait beaucoup de rôles de salope. Et je dis exprès le mot salope, parce que c'est un mot qu'elle employait. Quand elle fait les diaboliques, c'est un rôle de salope. Quand elle fait manège, c'est encore macadam, c'est une prostituée, etc. Donc, ce passage, pour la deuxième partie de sa carrière, où elle va rencontrer des rôles plus profonds, le chat, la veuve Coudert, Madame Rosa, ce qui est...
Bien sûr, la vie devant soi.
La vie devant soi, etc. C'est parce qu'elle a devancé l'âge. Parce que quand elle fait ces films-là, quand elle fait la veuve Coudert, elle a 55 ans. Qu'elle a l'âge de Sophie Marceau aujourd'hui.
Incroyable.
Prenez la tête de Sophie Marceau et comparez à celle de ma grand-mère au même âge, il n'y a pas photo. Donc, c'est aussi parce qu'il y a eu cette décision, ce sacrifice, j'ai envie de dire presque, de son âge, de dire voilà, elle a décidé qu'il y avait eu une partie de vie où elle était un sex symbole, une femme fatale, tu appelles ça comme on veut. Et puis après.
Elle a laissé les cicatrises de l'âme apparaître et elle s'en est servie.
Elle les a devancées même.
Elle les a devancées et elle s'en est servie de manière virtuose pour jouer.
Exactement. Et pour jouer et pour changer complètement de personnage. Parce que jusqu'à cet épisode-là, c'est Signoret la sublime. Et après, on dira c'est Signoret la plus vieille.
Non, la grande dame du cinéma français. Alors j'ai 1000 questions à vous poser. Benjamin Castaldi, on fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Alors Benjamin Castaldi, vous êtes né en 1970, l'année où Montand est à l'affiche du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, avec Delon et Bourvil, et à l'affiche de L'Aveu de Costa Gavras. Ouais. Quant à votre grand-mère, Simone Signoret, elle tourne avec Gabin, le chef-d'œuvre de Pierre Granier de Fer, Le Chat. Donc, année glorieuse pour ce couple. Mais la gloire, vos grands-parents la connaissent depuis un quart de siècle, déjà, en l'ayant rêvé de façon très très différente, car ils viennent de milieux extrêmement différents, on pourrait presque dire opposés.
C'est un mariage de la carpe et du lapin. Montand vient d'un milieu ouvrier, immigré italien, ayant fui le fascisme. Ma grand-mère, alors, c'est pas une grande famille, mais elle vit dans le confort bourgeois de Neuilly-sur-Seine.
Voilà.
Et elle fréquente les cafés en vogue de l'époque, donc le Flore essentiellement, où il y avait beaucoup d'intellectuels. Elle va croiser un tas de gens, dont Sartre notamment. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout, enfin, en théorie, issus du même milieu, mais je pense que c'est ces deux milieux-là qui ont fait qu'ils ont été si en symbiose et si proches après. J'imagine ce qui a dû passer par la tête de ma grand-mère et de mon grand-père, et de mon temps donc, quand ils ont vu la réalité du monde soviétique. Imaginez ce que ça doit plus leur faire.
La fameuse tournée en Russie de 4 mois à la fin des années 50.
Oui, je l'explique dans le livre, c'est que forcément, quand on a été à ce point alors bercé pour différentes raisons par le communisme, mon temps, parce que quand on n'était pas communiste, c'est qu'on était fasciste en Italie.
Ouais.
On fait un résumé un peu rapide. Et quant à ma grand-mère...
Puisque sa famille a dû fuir Mussolini.
Bien sûr. Et ma grand-mère s'appelle Kaminker, née à Wiesbaden, d'origine juive polonaise. Donc forcément, les soviétiques, c'est pas ceux qui vous ont massacré, c'est ceux qui vous ont sauvé.
Voilà,
donc c'est un vrai héritage. Donc quand ils découvrent que le communisme n'est pas aussi bon qu'ils l'ont imaginé, ça a dû être un vrai traumatisme.
Alors, justement, moi, j'aimerais pouvoir dérouler le fil en repartant justement du premier film dans lequel apparaît votre grand-mère, Les Visiteurs du Soir, chef-d'œuvre écrit en 1942 par Jacques Prévert et réalisé par Carnet, avec à l'affiche Arletty. Et Simone Signoret n'est que figurante sur ce tournage, mais une figurante embauchée pendant toute la durée du tournage, ce qui est absolument rarissime. Pendant 3 mois, votre grand-mère ne va pas quitter des yeux et des oreilles Arletty, au point que... Finalement, Simone Signoret, quand elle va commencer à jouer, va se mettre à parler et à se tenir comme Arletty.
Bah oui, mais bon, c'est la magie du cinéma. Mais on sent bien quand même, je l'explique assez clairement, ma grand-mère, c'est une comédienne, mais ce n'est pas une passion depuis...
Ce n'était pas du tout une vocation.
Une vocation, voilà. Pas du tout. Mon temps était fasciné tout petit par le cinéma américain, par le chant, par les acteurs américains. Mais ma grand-mère, pas du tout. Alors, il se trouve qu'elle s'est imposée comme, une des plus grandes actrices du XXe siècle, mais au départ, c'était pas une vocation. Et surtout, dans sa façon de gérer le boulot, il y avait le boulot, elle partait en tournage, et puis il y avait le reste. Il y avait une vraie scission entre les deux. Pour elle, c'était... Elle disait souvent qu'elle s'amusait beaucoup dans ses tournages. C'était parce qu'elle disait, voilà, on se déguise, on prend des personnages. Et en fait, je pense que c'était son truc à elle. Et qui devait être qu'à elle.
Alors que Montand, 24 heures sur 24, vivait sa vie en acteur.
Si on fait un résumé, c'est un peu ça. Ouais. Bah oui, quand il prépare Police Python, il a son flingue à la ceinture.
Avec lequel vous jouez quand vous êtes enfant.
Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. C'est vrai.
Bon, pour pouvoir travailler au cinéma pendant la guerre, il fallait une carte délivrée par la Propaganda Staffel qui prouvait qu'on était d'origine arienne. Or, votre grand-mère, vous nous l'avez dit, née Kaminker, était du côté paternel d'origine juive, polonaise et autrichienne. Elle s'est débrouillée comment alors pendant l'occupation pour pouvoir tourner?
Déjà, je n'ai pas tout expliqué, mais déjà, elle a eu l'intelligence de bosser dans un journal collabo. Parce qu'elle est chez Jean Lucher, qui est à la tête d'un journal qui est pétiniste, on ne va pas se mentir. Alors, ce n'est pas par dévotion politique, hein, mais c'est une des façons de se planquer. Et puis, que voulez-vous, elle se fait arrêter en 1943, on lui demande son nom, elle n'est pas sur la liste. Alors, elle n'est pas sur la liste, elle passe au travers des gouttes, alors qu'elle aurait dû, je pense, terminer déportée, vraisemblablement. Mais ça, c'est le destin, c'est la destinée. Pour quelle raison, j'en sais rien. Tout aurait dû l'amener vers la déportation et il ne l'a pas été.
Alors, Montand, lui, cette année-là, donc en 1944, débarque de Marseille à Paris avec des rêves de gloire plein sa valise.
Mais lui aussi, attends, je vous coupe, il s'appelle Lévy. Hein.
Oui.
Et à l'époque, entre Lévy
et Lévy, il n'y a pas des masses. Voilà. Il y avait confusion.
Il y avait confusion. Hein.
Donc, quand il arrive à Paris, Montand, il n'est pas acteur, il chante, chanteur de musical avec un réalisme prolétaire, plein de fantaisie. Et alors, très vite, il va monter sur scène en vedette américaine de Piaf. Piaf qui, d'emblée, va jouer au Pygmalion avec lui. Et vous écrivez, grâce à Piaf, il interprète, il ne cabotine plus, il joue. En fait, elle le transfigure et lui ouvre les portes d'un monde inconnu où se croisent Cocteau, Marcel Carné, Sacha Guitry, Michel Simon.
Oui, mais ça, mais moi, je suis à peu près certain qu'à l'époque, Montand, c'est pas ça qui l'intéresse. Hein.
Alors, qu'est-ce qui l'intéresse?
C'est pas ça qui
D'abord, la grande question, c'est... Parce qu'on est réunis, Benjamin Castaldi, pour évoquer ce couple de légendes formées par votre grand-mère et Montand, mais sincèrement, on a du mal à imaginer un coup de foudre réciproque qui submerge Montand et Piaf.
J'ai pas toutes les clés sur ça.
Montand s'est laissé choisir par Piaf, il était impressionné, j'ai du mal à imaginer qu'il fût aussi amoureux d'elle qu'elle l'était de lui.
Alors, je vais vous dire un truc. Montand m'a dit qu'il avait été très, très amoureux de Piaf et très meurtri par le fait qu'il s'est fait jeter à Montand par Piaf. Hein. C'est pas lui qui s'est barré. Hein.
C'est elle qui l'a jeté.
Oui, c'est elle qui l'a jeté. Donc, et quand il rencontre ma grand-mère, il est très, 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 très heurté par cette séparation. Et il n'est pas du tout enclin à retomber amoureux. Alors, certains diront que c'est lui qui est parti, elle qui l'a jeté. Mais moi, je vous le dis, il s'est fait jeter. Parce qu'elle était particulière, je crois, à vivre cette dame. Mais moi, j'ai lu la correspondance qu'ils ont eue ensemble. C'était très, très enflammé. Hein. C'était une passion forte.
Alors, donc, Piaf a introduit Montand dans les cercles intellectuels parisiens.
Elle a surtout mis en haut de l'affiche. C'est surtout ça qu'elle a fait.
Voilà. On a dit tout à l'heure que votre grand-mère venait plutôt d'un milieu bourgeois. Mmh. Lui, Montand, venait du véritable prolétariat. Quand on voit la longue silhouette aristocratique de Montand avec ses manières si polissées, toujours sous contrôle, on imagine qu'il a été éduqué ainsi. En fait, il s'est totalement inventé, Montand.
Bah, Montand, déjà, il fait 1m89. Hein. Donc c'est un grand...
Donc ça impressionne tout de suite.
Voilà, et surtout à cette époque-là, parce que les grands, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, Montand, c'est un travailleur acharné, c'est-à-dire que c'est un danseur. Il passe des heures à la barre. Quand il prépare ses tours de chant, chacune de ses chansons, elle est mise en scène, comme une petite pièce de théâtre. Il a une expression corporelle qui est absolument hallucinante, qu'il a travaillé dès, je dirais, le plus jeune âge. Donc il est naturellement gracieux. C'est ça le bon mot, il est gracieux.
Il est gracieux.
Ouais.
Mais vous l'avez vu travailler, par exemple, dans la maison de campagne à Auteuil,
au
Corleur Noir, véritablement tel un danseur qui fait ses barres.
Ah ouais, il fait ses gammes, je peux pas faire ses gammes. Il est avec la barre, il met la jambe qui va le long de la barre et ça s'écarte. Je peux vous dire que c'était très impressionnant parce qu'il était vraiment dans un entraînement. C'était presque un temps, c'est pas étoile, mais c'était impressionnant. Il y a plein de photos de lui où il est jambes écartes comme ça, fallait le faire. Hein.
Moi,
je ne le fais pas, par exemple.
Alors que Signoret, elle, renonçait à être
alors,
casque
d'or. Alors, elle, c'est Churchill, hein, c'est never sport, no sport.
C'était... Comme Churchill.
Ah, pareil. Ah, mais j'ai plein de points communs avec Churchill, je pense. La littérature, le scotch.
Et
no sports, et beaucoup de cigarettes, oui.
On retrouve tout de suite, Benjamin.
Vous avez vu le nombre de photos qu'il y a d'Anne, ma grand-mère, en train de fumer? Il n'y a que ça quand on regarde dans les archives. C'est incroyable. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Hein.
On retrouve tout de suite Benjamin Castaldi.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Ce livre se lit comme un roman et pourtant tout est vrai. Benjamin Castaldi publie aux éditions du Rocher « Je vous ai tant aimé ». Benjamin Castaldi, au sujet de votre enfance, dans la maison de campagne de Signoret et de Montand, à Auteuil, vous écrivez « Je vis dans un livre pour enfants. Je suis un des personnages de ce livre. Le vilain petit canard, tant aimé par sa grand-mère. Mon terrain de jeu fait 7 hectares. Il y a une forêt, un jardin, une piscine, un tennis, un théâtre. Chaque repas est une fête entièrement préparée par Marcel.
Ouais.
Et à cette table, souvent, je suis assis à côté de Michel Piccoli, de Costa Gavras, d'Yves Robert, de Claude Brasseur, de Serge Reggiani, de François Perrier. Pourquoi n'avez-vous pas rêvé de devenir acteur, alors ?
Parce que je suis très mauvais.
Il y en a qui tentent qui sont pourtant pas si bons que ça.
J'ai même fait une confidence que je n'ai jamais dite. Quand j'étais à l'école, au lycée, je m'étais inscrit à un cours de théâtre et comme dans toutes les écoles, à la fin de l'année scolaire, on faisait tous un spectacle.
Oui.
Une pièce, en l'occurrence. Et je n'ai jamais... Et ma grand-mère, ma mère m'en veut beaucoup, et mon père aussi, je ne les ai jamais
prévenus
et invités à aucune de mes pièces de fin d'année. Donc j'ai fait... Moi, j'ai joué l'avare, par exemple, en entier. Il paraît que j'étais pas mauvais.
Et ben voilà, il vous aurait peut-être félicité. Votre grand-mère vous aurait dit tu as trouvé
mais,
ta voix.
Ouais, mais je pense que je sais pas si moi j'avais tellement le complexe de réussite d'infériorité que ça aurait été compliqué, je pense.
En tout cas, vous avez un jour déclaré ne jamais avoir été tenté de devenir acteur m'a épargné beaucoup de choses.
Bien sûr, déjà la comparaison. déjà la comparaison. Non, mais c'est terrible parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, en plus, j'ai vu ma mère souffrir beaucoup parce qu'elle a eu la malchance de naître à une époque où les filles d'eux et les fils d'eux, c'était pas à la mode. Aujourd'hui, ça choque personne.
Il y a même un renversement.
Voilà, maintenant qu'il y ait Chiara Mastroianni, qui est le fils de Brasseur, tout ça est parfaitement normal. À son époque, elle, on en a voulu. C'est totalement injuste. C'était la fille. En plus, elle le Signoret, forcément, c'est compliqué. Mais... Donc j'ai eu cet exemple-là de ma mère qui passe. On a quand même passablement souffert qu'on lui rabâche sans cesse. Ah, c'est la fille de Signoret. Donc j'avais pas envie qu'on dise que j'étais le fils de mon père, ni de ma mère. Et c'est vrai que moi, j'ai été épargné par ça. J'ai la chance de réussir avec mon prénom.
Voilà, mais vous avez aussi confié que si Simone Signoret et Yves Montand avaient vécu plus longtemps.
Ouais.
Je rappelle que vous aviez 15 ans quand votre grand-mère est décédée.
21 quand
votre voilà, ouais. Vous auriez sans doute terminé vos études et vous n'auriez pas fait de télé.
Non, je crois pas. Ou alors,
si vous étiez sincère en disant ça?
Oui, je suis très sincère. J'aurais jamais assumé de mettre en avant, en scène. J'aurais eu trop peur du regard de mes grands-parents. J'étais trop dans la volonté de ne pas les décevoir que j'aurais jamais pu faire ça, je pense.
Parce que vous avez décroché une licence de sciences économiques.
Non, je me suis arrêté en deuxième année.
Ah bon? Alors ouais, vous voyez, les journalistes vous
c'est pour Wikipédia, c'est pour Wikipédia.
D'accord, et le concours de Sciences Po?
Ça, je l'ai présenté, je l'ai raté, ça c'est vrai. Bah, j'étais admissible, mais je me suis planté à l'oral.
Bon, vous ambitionniez en fait quel genre de carrière à l'époque en voulant faire Sciences Po?
Alors moi, je voulais faire Bernard Tapie comme métier, mais ça n'existe pas. et je pense que j'aurais pu être un bon journaliste, ouais. J'aurais peut-être fini, non mais peut-être dans le monde de la télé, mais plutôt
Benjamin
dans, du
Castaldi,
côté sérieux.
Il y a une vingtaine d'années sur cette antenne, vous étiez un excellent intervieweur.
J'adorais ça. Alors voilà, ça j'aurais été fier que ma grand-mère écoute mes interviews. J'aurais été fier qu'elle écoute mon interview avec François Giraud, qui est l'une de ses dernières. J'aurais été fier qu'elle soit là quand j'ai interviewé son pote Samprin. Voilà, ça oui. Ça c'est un vrai regret. Qu'elle me voit dans le love, franchement... Non.
Bon, alors c'est vous qui évoquez le loft, je prends la balle au bon. Ouais. Justement, votre nom, il est à jamais associé à l'irruption de la télé-réalité avec le Love Story sur M6 et Secret Story sur TF1.
Ouais.
Vous pensez en être sorti sans dommage, sans y avoir laissé trop de plumes?
Non, j'ai laissé des plumes. Évidemment que j'ai laissé des plumes. En plus, on n'est pas dans un pays où on décolle facilement les étiquettes. Donc, comme je ne suis pas tellement... carriériste, je n'ai fait pas tellement d'efforts pour que les gens m'aiment dans le métier. Voilà, moi je suis très provocateur dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on pense que je suis un gros balourd, un blaireau...
Vous allez en rajouter.
Ouais, c'est mon défaut ça.
Benjamin, vous êtes un enfant de la balle élevé dans une famille de cinéma. Vous n'avez jamais eu envie de produire et présenter des émissions cinéma et recevoir télé cette catégorie d'artistes que vous connaissez si bien, les acteurs.
Si, ça j'ai voulu le faire, mais sauf que j'ai jamais réussi à faire une émission de télé. À l'époque, c'est pas moi qui ai eu la place, c'est Fadiac Lopez, qui en connaît à peu près autant sur le cinéma que moi sur la mécanique, ce qui est totalement injuste.
je vous laisse donc la légitimité du propos.
Je fais une boutade. et en fait, moi j'ai toujours considéré que le cinéma, on devait en parler comme étant un spectacle et pas comme étant une promotion. Donc ça me mettait déjà un peu en porte-à-faux. Donc moi je voulais parler cinéma, mais on parlait vraiment. Dans le bon et dans le mauvais
sens. Mais vous savez que la route est longue, donc ça veut dire que...
Ouais, mais j'ai plus envie, là.
Ah, vraiment?
En plus, quand je retrouve en projection privée les mêmes que je croisais il y a 25 ans, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Je vous le dis, franchement, ça m'angoisse.
Bon, on s'interrompt sur cet éclat de rire et on retrouve tout de suite Benjamin Castaldi.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Il ne pouvait pas ne pas écrire ce livre. Lui, Benjamin Castaldi, témoin privilégié dans l'intimité familiale de l'histoire du couple le plus légendaire du cinéma français, Signoret et Montand. Le livre a pour titre « Je vous ai tant aimé » et il paraît aux éditions du Rocher. Benjamin est cet après-midi mon invité. Alors Benjamin Castaldi, au travers de l'histoire d'amour de Simone Signoret et Yves Montand, c'est une grande partie de l'histoire artistique et politique du XXe siècle que vous chroniquez dans ce livre. Car en pleine guerre froide, Signoret et Montand étaient considérés en France comme des militants communistes, alors que leur seul engagement officiel fut de militer pour la paix en signant l'appel de Stockholm. Leur tournée en Russie, à l'époque de Khrouchtchev, a été une véritable épopée dont le monde entier a parlé. Mais ils se sont quand même beaucoup interrogés avant de la faire, cette tournée. En fait, ce qu'ils se sont demandé, c'est s'ils allaient servir la propagande du parti. Hein.
Bah,
ils ont même essayé de faire appel à Aragon, qui s'est défilé comme un pleutre.
Bah oui, parce qu'il y a courage et courage, et il y a courage fuyons. Non, mais mes grands-parents, c'est en ça qu'ils sont incroyables. C'est que, comme on leur a fortement déconseillé d'y aller... Évidemment, ils y sont allés. C'est un vieux principe. Voilà. Après, je pense vraiment que pour mon temps, peut-être même plus pour mon temps d'ailleurs que pour ma grand-mère, ça a été un vrai choc et une vraie, vraie, vraie déception. Et d'ailleurs, pas mal de ces... Parce que mon temps, dans sa carrière cinématographique, il y a toute une partie qui est... C'est sa rédemption, hein, l'aveu.
Bien sûr,
voilà. Pardon, hein. C'est pardon de m'être trompé. Alors qu'on lui avait pas, c'était pas très grave en plus de s'être trompé, parce qu'il s'est trompé comme beaucoup, 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 comme des dizaines de millions de personnes. Mais lui, il était vraiment meurtri. Puis je vous rappelle que ça a coûté cher sentimentalement parlant, dans sa famille. Il s'est fâché très fort avec son frère.
Avec son frère.
Il s'est fâché très fort avec son beau-frère, puisque le frère de ma grand-mère, qui est encore en vie d'ailleurs, il doit être le dernier communiste vivant en français, avec la carte, je vous jure que c'est vrai. Donc ça a été pour lui, je pense, quelque chose de très très fort. Et c'est pour ça qu'il est autant passé de l'autre côté, parce qu'il est passé de très très à gauche à plutôt à droite.
Alors, mais restons sur la tournée en Russie qui a duré 4 mois. En Russie, Montand et Signoret ont été accueillis tels des chefs d'État.
Ouais.
C'était plus une tournée en fait, c'était un voyage officiel où on leur montrait les kolkhoz, les usines,
mais
les écoles.
Mais ils n'étaient pas dupes. Hein.
Mais ils n'étaient pas dupes. Mais justement, comme par exemple une place pour écouter chanter Montand au cours de cette tournée coûtait 20 roubles, c'est-à-dire plus du quart du salaire moyen à l'époque pour un ouvrier russe, il paraît que Montand très souvent s'est mis à improviser des récitals dans les usines, hissés sur des plateformes de camions. Comment, à cette époque où les Russes n'avaient pas la télé, Benjamin Castaldi, comment l'aura d'Yves Montand était-elle arrivée jusqu'à eux?
Je pense, c'était parfaitement préparé quand même, ce tour de chant. Et je pense que, alors là, pour le coup, la propagande soviétique a marché à plein régime, puisque quand même, ils ont été reçu, vous l'avez dit, par le...
Donc vous voulez dire qu'au départ, c'est vraiment le Politburo, c'est Khrouchtchev, ce sont les hauts dignitaires du Kremlin qui l'ont choisi.
Évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait tant polémique. Et puis après, il est pris par ce qui se passe, par la foule, et je ne sais pas si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, allez voir sur Internet, la tête de ces soviétiques ouvriers qui l'écoutent chanter en ne comprenant pas un mot de ce qu'il dit.
Mais qui sont pour son temps fatigués, voilà.
Ils sont subjugués par le mec.
Ouais.
Donc ça fait partie des grands, grands moments de sa carrière, ça fait partie, je pense, de sa naissance politique réelle. C'est-à-dire que c'est devenu pour lui un sacerdoce, et on se moquait tout le temps de lui avec ses grandes envolées sur le communisme. Mais c'est un vrai déçu de ça.
Alors, il y a un dîner absolument incroyable, parce que surréaliste, entre Khrouchtchev, donc premier secrétaire du parti, les quatre autres plus hauts dignitaires du régime, membres du Politburo, Yves Montand et votre grand-mère Simone Signoret, il y a un dîner qu'il faut absolument nous raconter. Parce que la presse du monde entier a parlé de ce dîner historique en ignorant absolument tout ce qui s'était dit autour de la table, mais vous savez, parce que dans la famille, on a fini par savoir, et votre grand-mère vous a raconté.
On a trois sources, on a Montand, on a Signoret, et on a la traductrice.
L'interprète,
qui était là. Donc tout ce que vous allez lire dans le livre de ce dialogue est vraiment une reconstitution historique. Et c'est vrai que tout ce que vous allez découvrir, et notamment la fin, parce que c'est quand même ce qu'on va retenir, c'est que après avoir plus tout, ils ont pu tout leur dire.
Ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire, parce que ça aurait pu très mal se terminer.
Non, parce qu'on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Mes grands-parents étaient des cabots quand même. Je ne crois pas une seconde qu'ils aient cru qu'ils finiraient au goulag après ce repas.
Je ne dis pas ça, mais...
mais ils ont pu, ma grand-mère l'a dit, j'ai repris ses propos, ils ont pu tout dire. Et tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et ça, elle dit elle-même, elle le dit, elle l'a redit, Montand l'a dit, c'est qu'on peut au moins leur laisser ça, c'est qu'ils nous ont laissé nous dire ce qu'ils avaient à nous dire. Et ils l'ont fait. Voilà. Non mais c'est vrai. J'imagine que pouvoir dire au patron de la Russie...
À Khrouchtchev, les yeux dans les yeux.
Là, ce que j'ai vu, ça ne va pas. C'est extrêmement courageux, même si on ne risque pas grand-chose.
En tout cas, il paraît qu'avant de se coucher, Montand a dit à votre grand-mère « Bon, maintenant, on sera mal avec tout le monde, mais alors qu'est-ce qu'on se sent bien avec nous-mêmes »
Exactement, mais il y a ça. Puis il y a cette phrase, quand à la fin du repas, Khrouchtchev propose un toast à la Pravda, et ma grand-mère dit oui, à la Pravda, mais pas le journal.
Oui, parce que Pravda, ça veut dire la vérité.
La vérité. Buvons à la vérité, vérité, donc à la Pravda. Voilà, c'est un très grand moment, et ça fera une très belle scène de film.
Absolument. Alors Benjamin Castaldi, cette tournée de 4 mois en Russie n'empêchera pas l'Amérique, 2 ans plus tard, donc en 59, de convier Montand à donner des récitals d'abord à New York, puis en tournée, où il est annoncé vraiment à travers tout le pays comme le plus grand showman français.
Ben oui.
Mais votre grand-mère d'ailleurs, Simone Signoret, à cette époque-là, ne sera pas en reste, puisqu'elle triomphe au même moment aux États-Unis avec un film qui lui vaudra bientôt l'Oscar, Room at the Top.
Exactement.
Et le couple va pénétrer donc directement dans la mythologie d'Hollywood, applaudi par Kirk Douglas, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Ingrid Bergman, Liz Taylor, Tony Curtis, George Cukor, Arthur Miller et bien sûr Marilyn Monroe. Mais avant de parler de Marilyn, comment ont-ils traverser le rêve américain? J'imagine qu'ils l'ont fait d'une façon très différente l'un de l'autre.
Montand triomphe 4 ans auparavant, avant que ma grand-mère ait donné l'Oscar. Ce que les gens ont oublié, c'est que Montand était un des rares, si ce n'est le seul artiste français, à avoir autant de succès en Amérique. Donc il a eu une tournée, mais pas seulement à New York, partout en Amérique. Donc c'est pendant cette première tournée, 4 ans avant le film, qu'il va rencontrer Marilyn Monroe, ce que les gens ne savent pas. Ils se rencontrent 4 ans avant, et quand Marilyn Monroe le voit chanter, elle est en train de préparer Let's Make Love, donc Le Milliardaire, et dans le casting est prévu, je crois, entre autres, Dean Martin, et elle dit, ce ne sera pas Dean Martin, ni aucun de ceux que vous avez choisis, ce sera lui. Et c'est elle.
Marilyn qui
c'est
choisit,
Marilyn qui
mon
le choisit.
Temps.
Eh oui. Et oui, c'est pour ça que l'histoire est intéressante, c'est qu'effectivement, elle va venir le voir une première fois chanter à New York, et une deuxième fois avec son mari. Et ils vont aller dîner avec ma grand-mère chez les Miller, comme elle disait elle-même. Et c'est là où ils se rencontrent. Et pas du tout sur le tournage. Donc, de ce fait historique, je peux vous dire aujourd'hui que vraisemblablement que la vraie victime de cette histoire, c'est pas Montand, c'est Marilyn, parce que je pense qu'elle était réellement amoureuse de Montand.
Voilà. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on est en 1960.
Ouais.
C'est Gary Cooper qui souhaite le premier. Une merveilleuse nouvelle année 1960 à votre grand-mère en dansant avec elle un slow dans une fête à Beverly Hills. Et Gary Cooper, eh ben, il ne croit pas si bien dire parce que quelques semaines plus tard, on va révéler les nominations aux Oscars et dans la catégorie meilleure actrice se trouvent Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Doris Day et Simone Signoret.
Ouais.
Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que quelques minutes avant que Rock Hudson ne décachette l'enveloppe, Montand avait chanté sur la scène des Oscars en imitant Fred Astaire.
Ouais.
Absolument incroyable. Donc, Rock Hudson, ça y est, on y est. Fait résonner le nom de votre grand-mère dans la salle des Oscars. Bon, à ce moment-là, le monde leur appartient.
Ah oui. Ce sera l'objet de la pièce qu'on a écrite avec Schmitt, avec Emmanuel. Eh oui, puisque c'est de ce postulat-là qu'on se rend compte qu'ils ont tout. Et ils sont au summum sentimentalement. Dans leur carrière, ils sont à Hollywood, ils sont au Beverly Hills Hotel, ils sont, elle a un Oscar, elle a la plus haute récompense qu'on puisse avoir au cinéma. Ils pensent que rien ne va leur arriver et pour ma grand-mère, ça va se casser la gueule.
Et justement, voilà la légende avec sa part d'ombre n'a pas fini de s'écrire.
Et oui.
Voilà, donc on fait une pause très très courte et on reprend ce récit follement romanesque pourtant authentique de l'histoire de deux monstres sacrés. À tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Benjamin Castaldi publie aux éditions du Rocher « Je vous ai tant aimé ». Alors, cher Benjamin, lorsque Simone Signoret et Yves Montand se sont installés à Hollywood dans le bungalow numéro 20 du très très luxueux Beverly Hills Hotel, cerné par le bungalow numéro 19 du nabab d'Hollywood Howard Hughes et par le bungalow numéro 21 qui abritait Arthur Miller et Marilyn Monroe. Eh bien, Marilyn Monroe, votre grand-mère, sans doute, n'imaginait pas du tout qu'elle allait devenir, Marilyn, sans aucune arrière-pensée, sa meilleure amie, comme on dit aujourd'hui, sa BFF.
Ouais, c'est ça, best friend.
Best friend forever.
Forever. Bah non, mais c'est vrai qu'ils ont passé 4 mois ensemble. Et c'est vrai que ma grand-mère était très copine avec elle. Ils ont fait les boutiques, ils avaient le même coloriste, le coloriste de Jean Harlow qui venait...
Oui, leur faire les cheveux platines, avec de l'ammoniaque qui était redoutable pour le cuir chevelu à l'époque.
Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ma grand-mère oisive à Los Angeles, et pourtant c'est un peu ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'elle était, elle allait de fête en fête, Montand bossait comme un chien, Marilyn aussi, et elle s'est retrouvée à la fois avec Arthur Miller, avec qui elle a beaucoup beaucoup parlé, et puis de temps en temps elle parlait avec Marilyn Monroe, qui n'avait, paraît-il, pas de souvenir de tournage. Et Marilyn Monroe voulait tout le temps que ma grand-mère lui raconte ses histoires à elle.
Incroyable.
Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, en fait, un soir, ils se retrouvent tous les deux. Montand va se coucher parce qu'il tourne très tôt le matin. Elle ne tourne pas, ou tourne plus tard. Et ils parlent jusqu'à 2-3 heures du matin. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Je ne peux pas vous donner la réponse. Le fait est qu'après cette soirée, Marilyn ne va pas se réveiller, ne va pas sortir de sa chambre pendant 3 jours. Alors, dépression, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est au bout d'un moment, Montand devenait fou parce que c'était compliqué de travailler avec elle parce qu'elle était insupportable.
Ah, c'est capricieuse.
Capricieuse, voilà. Jamais à l'heure, etc. Et Montand, il était un, très agacé par elle, et deux, en souffrance parce que lui n'était pas à l'aise dans la langue.
Oui, oui.
Et donc, un jour, personne, deux jours, toujours personne, et ma grand-mère lui dit à Montand, fais-lui un mot, il lui suit sous la porte. Et comme Montand ne parle pas très bien l'anglais, c'est ma grand-mère qui va rédiger
le mot. D'accord.
Et c'est ce mot qu'il va glisser sous la porte qui va finalement les réunir. Comme quoi.
Oh mon Dieu.
Voilà.
L'histoire est folle.
L'histoire est folle.
Alors, le tournage du milliardaire va bientôt démarrer avec Montand, Marilyn, votre grand-mère, elle part tourner en Italie, Arthur Miller part lui bosser à New York.
Non, il part en Écosse pour préparer.
En Écosse, voilà. Et quelques temps plus tard, Montand envoie un télégramme à Simone Signoret sur lequel est écrit « Je t'en supplie, ne crois rien de ce que les journaux diront, je t'aime. »
Ouais, ça vous étonne? Franchement, est-ce que ça vous étonne? Vous nous connaissez un peu. Bon, voilà. Tout est écrit, il n'y a même pas besoin de commenter.
Voilà. Mais alors, pour mon temps, c'était une histoire de désir. Bon, Marilyn imaginait plus, voulait plus.
Je ne suis même pas sûr que ce soit ça.
Même pas?
Il m'a beaucoup parlé de cette...
En fait, vous allez dire qu'il s'est laissé...
Ah, ça, c'est ce que mon temps disait de lui. Oh, tu es au petit, quand même.
C'est
quand
la coquetterie
même,
de dire
petit,
ça.
Tu te
de la coquetterie de
moi,
macho.
Moi, je ne voulais pas. Moi,
je ne voulais pas, ouais. Et elle m'a sauté dessus.
Voilà, c'est bon. Ça, c'est un menteur aussi. Mais je pense vraiment que lui, c'était une conquête. Je pense qu'elle était non seulement amoureuse de lui, mais amoureuse de ce qu'il représentait avec ma grand-mère.
Elle rêvait de ce couple.
C'était psychique un peu. C'est-à-dire qu'elle était fascinée par tout ce qu'elle avait en face d'elle, dont elle considérait qu'elle ne pourrait jamais l'avoir.
C'est-à-dire un couple stable qu'elle allait pourtant contribuer à détruire.
Oui, mais parce que
c'est le
scorpion qui va piquer la grenouille. Hein, ou
mais alors, il y a une chose quand même tout à fait étonnante. C'est qu'à la fin du tournage du Milliardaire, donc en juin 1960, Montand, lui, doit rentrer à Paris. Mmh. Il attend en transit à New York son avion pour Paris. Et voilà que débarque, absolument par surprise, Marilyn, qui sans rien dire a déjà retenu une chambre d'hôtel dans New York.
Où ils n'iront pas.
Elle le supplie de rester.
Ouais, où ils n'iront pas. Il n'ira pas dans la chambre. Ils vont rester dans la limousine à se parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça leur appartient, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré. Et qu'il l'a laissé. Et d'ailleurs, quand vous regardez la chronologie, un an et demi après, elle est morte. Et elle va faire n'importe quoi après Montand. Elle fait n'importe quoi. On la retrouve délirant dans les rues de Los Angeles, se tapant plein d'inconnus sexuellement parlant. Elle est verbalisée par la police américaine pour outrage, etc. Et elle va faire n'importe quoi. Le summum, c'est l'anniversaire de Kennedy, où elle est complètement...
Elle arrive avec 3 heures de retard.
Et voilà. Et c'est vrai que si j'étais... Tu peux peut-être aller loin, mais je peux vous dire que c'est l'homme de sa vie, Marilyn. Parce que je pense que c'est... Il y a lui, il y a DiMaggio. Et quand vous comparez DiMaggio, qui était son premier mari, et Montand, il n'y a pas des masses.
C'est vrai. Il y a une ressemblance.
Oui, mais j'ai fait de la psychologie sur le
Benjamin, d'ailleurs, vous dites que l'affaire Marilyn, même si votre grand-mère l'a gérée face aux médias avec un humour relatif...
Non, c'est de l'orgueil.
C'est de l'orgueil, alors c'est pas de l'humour.
C'est
parce
de l'orgueil.
Parce qu'elle disait qu'elle était la cocu la plus célèbre du monde. Bon... Cette affaire, Marilyn, elle a quand même dessiné une frontière entre Signoret et Montand, puisque à partir de ce moment, votre grand-mère s'est oubliée dans l'alcool, en spectatrice carrément de sa dégradation.
Comme je me suis engueulé avec ma Vicline Renault parce que je lui reprochais d'avoir dit que ma grand-mère était alcoolique, bon, c'est vrai qu'elle avait picolé un peu, mais même beaucoup, de temps en temps. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'après l'affaire Marilyn, ma grand-mère, elle a tiré le rideau sexuel. Faut appeler un chat, et c'est terminé. À 40 ans, elle a dit niette. Basta. Terminado.
C'est-à-dire que ce couple a fait chambre à part.
Exactement.
Montand et Signoret.
Ah oui, et j'ai cherché et on a essayé de trouver. Je ne lui connais aucun amant à ma grand-mère.
Mais la liste des conquêtes de Montand est longue.
Oui, c'est beaucoup. C'est plus le plus proche du bottin qu'autre chose. Oui.
Alors, Benjamin Castaldi, c'est Yves Montand, en août 62, qui a appris à votre grand-mère la mort de Marilyn. Et Simone Signoret a eu cette phrase absolument extraordinaire. Elle a dit « Elle n'aura jamais su combien je ne l'ai pas détestée. »
Ben oui, mais c'est normal. D'abord, elle était très... Là où elle était très forte, ma grand-mère, c'est que quand elle dit « Vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn », quand je vous dis que c'est de l'orgueil, c'est que quand même, celle qui la trompe, c'est celle qui lui pique son mari, c'est quand même Marilyn Monroe. C'est pas Madame Miss Due. Bon. Déjà, donc on compare les deux. Et moi, quand je voulais faire un film sur cette histoire, le pitch de mon film, c'était l'une des plus belles femmes du monde dont le mari la trompe avec la plus belle femme du monde. Et c'est vrai que pour ma grand-mère, qui, contrairement à ce qu'on était extrêmement lucide sur sa beauté et sur ce qu'elle représentait auprès des hommes, elle était loin d'être dupe de ça. Je pense qu'elle n'a pas vu arriver l'iceberg. Je pense qu'elle se dit, bon, c'est une nana sympathique, c'est Marilyn, elle est tellement... elle énerve tellement Montand qu'il y a zéro risque. Elle n'a pas vu arriver le truc. Et ça, j'en veux pour preuve. Vous allez voir comme c'est intéressant, c'est que la séance photo qu'on connaît tous, où ils sont en train les deux de faire semblant de cuisine, parce que ma grand-mère, elle a un col roulé jusque-là, et un pantalon à carreaux dégueulasse. Elle est en robe noire, au ras de la poitrine. Donc c'est
là, vous parlez de Marilyn.
L'exacte opposition.
Voilà. Que ce soit clair.
Que ce soit clair et dit. Donc si vous voulez, elle n'est pas du tout dans la compétition avec elle. Pas du tout. C'est pour ça que la porte qu'elle prend dans la figure est d'autant plus forte. C'est qu'elle ne la voit pas arriver.
On retrouve tout de suite Benjamin Castaldi.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Benjamin Castaldi, ce couple de légendes qu'on évoque aujourd'hui, donc Simone Signoret, votre grand-mère, et Yves Montand, représente à lui seul vraiment une grande partie de l'histoire du cinéma français, mais le bonheur, c'est autre chose. Vous citez dans ce livre un mot, donc le livre qui vient de paraître aux éditions du Rocher, « Je vous ai tant aimé », vous citez un mot écrit par votre grand-mère à Montand, après une de leurs disputes mémorables et fréquentes, et il est impressionnant ce mot. Elle lui dit « Je t'ai connu enthousiaste, drôle, inquiet, passionné, jaloux, en colère. Je ne t'ai jamais connu heureux. Heureux de perdre ton temps, heureux d'écouter, heureux de partager. Tu es le plus égocentrique des malheureux généreux que j'ai jamais connus. »
Ouais. Elle a parfaitement résumé mon temps. Elle le connaissait bien, son homme, parce que je peux vous dire que c'est un couple qui ils se sont passionnément aimés et aimés de deux façons dont on peut s'aimer. Avant l'affaire Marilyn et après l'affaire Marilyn. Mmh. Parce qu'il y a eu une notion de pardon dans un couple, je pense, c'est essentiel, même s'il n'excuse pas tout. Mais ils se sont aimés follement de deux façons différentes. Et elle le connaissait bien, parce que Montand, c'était un électron libre dans la famille. Il était là avant tout le monde, après tout le monde. Il était là quand on ne l'attendait pas ou pas là quand on l'attendait. Mmh. C'était Montand, ça. Pour des raisons qui sont des raisons, je pense, existentielles et qui sont les siennes.
Comme dans César et Rosalie.
Exactement. C'est le film qui lui ressemble le plus, César
voilà.
et Rosalie.
Et c'était César,
à la fois
dans la
drôlissime,
ouais.
Il pouvait être d'une méchanceté absolue, d'une générosité sans borne, et tout d'un coup, d'avoir des propos limite d'un radin. C'était un paradoxe permanent, Montand. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était un enfant et qu'il avait toujours des yeux qui brillaient, c'est qu'il n'était jamais satisfait. Et c'est vrai que se poser, et ça je tiens bien ça de lui, c'est un truc que je ne sais pas faire.
Alors, ce couple laisse une filmographie étonnante. Bon, d'abord, votre grand-mère réalise ce qu'aucun acteur et aucune actrice avant elle n'avait fait, le triplé improbable, c'est-à-dire l'Oscar, le prix d'interprétation au Festival de Cannes et le César. Mmh. Et Montand, lui, laisse des films qui vont du Salaire de la peur, Agent de Florette, en passant par Z, L'Aveu, mais aussi César et Rosalie, Vincent-François Pellet et les autres, le très beau Clair de femme, et La Folie des grandeurs avec Deux funestes.
Le Sauvage.
Le Sauvage, donc le spectre, il est incroyablement large.
Il est beaucoup plus large.
En fait, il a fait des grands écarts permanents au cinéma à Montand.
Ah, mais la carrière de cinéma de Montand, je l'explique, est bien plus impressionnante que celle de ma grand-mère. Ce qui explique aussi pourquoi, quelque part, il est resté peut-être un peu plus dans la mémoire des gens aujourd'hui. Ma grand-mère, il y a une reconnaissance du métier très importante, et puis vous l'avez dit, c'est la plus primée. Elle a tout eu.
Voilà.
Elle est primée. Lui, il est reconnu par le public. Mmh, mmh. C'est l'éternelle opposition. Il a fait des films qui ont...
Mais déçu de ne pas avoir été... Par exemple, son interprétation dans Manon des Sources et Jean de Florette, il n'a pas eu le César. C'est Daniel Auteuil qui l'a eu.
Il en a souffert, je peux vous le dire.
Ouais.
Parce qu'on a beau dire, on s'en fout des récompenses. Non, on s'en fout pas des récompenses. On aime bien ça. Je raconte quand il découvre l'affiche du film. Oui, c'est souvent tout un peu petit que Depardieu. Bon. Mais vous lirez.
Il faut lire absolument le livre qui a pour titre « Je vous ai tant aimé ». Alors, dans la filmographie de Montand, je citais par exemple « La folie des grandeurs ». J'ai appris dans votre livre que Montand n'était pas du tout prévu au départ, n'est-ce pas? C'est pas lui qui devait affronter
Bourville,
De Funès.
C'est Bourville. C'est Bourville. Et c'est ma grand-mère qui suggère Montand. Comme quoi, vous
incroyable
voyez,
il lui doit ce rôle
oui, absolument.
Dans La Folie des grandeurs.
Comme ma grand-mère lui doit aussi le rôle de Thérèse Raquin. Parce que quand Montand lui dit très, très gentiment qu'il en a marre de l'avoir rien foutre sur un canapé, elle dit qu'elle a quelques fils à passer pour retravailler.
Alors, voilà, il faut expliquer qu'en fait, un film n'avait pas fonctionné, c'est Casque d'or.
Oui, non mais il a marché après.
Mais oui, mais bien plus tardivement, elle en a conçu un certain dépit. Elle s'est dit, bon, allez, je ne tourne plus. Et ça a agacé Montand de voir Signoret quotidiennement à la maison, comme ça, en train de tricoter.
Bah oui, je comprends, il était moins tranquille. Avoir maman à la maison du matin au soir, c'est sûr que c'est beaucoup moins pratique.
Benjamin Castaldi, pourquoi avez-vous le sentiment que si la légende de Signoret à aucun moment n'a été entamée, celle de Montand, au moment de sa disparition, a souffert quand même pas mal d'outrages? Pourquoi?
Il y a un truc dont il ne s'est pas remis, dont il a beaucoup souffert et qui a été largement exploité par la presse et qui a, je pense, qu'il a vraiment abîmé, c'est l'histoire des 800 000 francs de TF1.
Pour présenter une émission?
Pas du tout. C'est ça qui est pire.
Pourquoi?
C'est pas pour présenter, c'est pour répondre à des questions sur son éventuelle candidature, faite par Anne Sinclair à l'époque, puisqu'il était question qu'il se présente, puisqu'il était, je crois qu'il avait 19% d'intention de vote, ce qui était considérable. Et il allait expliquer à la télévision que s'il avait été candidat, il aurait demandé aux gens de se serrer la ceinture.
Et on apprend qu'il demande apprend. 800 000 francs
et le canard enchaîné
pour participer à l'émission.
Le canard enchaîné sort ça deux jours après, en montant, là, fait la morale et prend 800 000 balles. C'est mort, je vous explique. En termes de communication, c'est dévastateur.
Mais alors, revenons à la légende. Montand et Marilyn. Mmh. Vous avez coécrit récemment une pièce avec Eric Emmanuel ouais. Schmitt. Alors, racontez-nous tout de cette aventure.
Le pitch
Elle
est simple.
Elle va voir le jour quand, cette pièce ?
Décembre 2021, janvier 2022 plus tard.
Oui.
Si on est en sortie de cette saloperie de Covid. C'est une idée que j'ai eue depuis longtemps avec mon camarade Philippe Stolz. On voulait, en fait, je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents. En travaillant sur l'adaptation, on s'est rendu compte que pour plein de raisons dont on a parlé aujourd'hui, ils sont un peu sortis de notre siècle, de notre temps.
Donc vous avez choisi
et
un
j'ai
chapitre.
Dit, j'ai dit, il y a un truc qui est
qui
universel,
parle à tout le monde.
C'est l'affaire Marilyn. Et on en a fait avec Eric Emmanuel Schmitt, on en a fait. Alors là, c'est très fictionné, on s'est permis beaucoup de choses. Hein. Mm-hmm. Mais c'est un thriller amoureux. Et là où c'est génial, c'est que c'est un affrontement entre deux femmes, entre Signoret et Marilyn, qui vont non seulement se rencontrer au cours de la pièce, et surtout se parler après.
Alors, les deux actrices, vous avez une idée du casting
ouais, allez. On aimerait avoir Scarlett Johansson dans le rôle de Marilyn, et on aimerait beaucoup Sophie Marceau dans le rôle de ma grand-mère.
Donc, il faudrait faire venir Scarlett Johansson
ça, c'est,
ici,
ça, c'est en route, ça.
Sur une scène de... C'est en route
ouais, ouais.
Waouh, Benjamin
ouais.
Castaldi
pas signé, pas signé. Et Sophie Marceau n'a pas signé, mais je sais qu'elle a lu la pièce, et je sais qu'elle l'aime bien, voilà.
Bon
Inch'Allah.
Très
mais
bon, bien, décembre 21.
Mais j'adorerais avoir... si j'ai ce casting, ce serait magnifique. Mais la pièce va plaire parce que, pour le coup, c'est universel. On y raconte vraiment...
On peut avoir le titre de la pièce.
Bungalow 21.
Bungalow 21.
Pourquoi 21? Parce que le 21 était en face du 20 qu'occupaient mes grands-parents.
Voilà, et que c'était le bungalow de Marilyn et Arthur Miller.
Voilà.
Le livre a pour titre « Je vous ai tant aimé », il paraît aux éditions du Rocher. Et vraiment, c'est un témoignage d'une richesse et d'une émotion forte. Merci d'avoir partagé
Merci
tout ça avec nous cet
Merci.
Après-midi,
Mais
Benjamin.
C'était un plaisir, j'adore. On aurait pu durer encore deux heures.
Ah, promettez-nous, vous referez de la radio un jour.
Bah, écoutez, si on m'emploie, avec plaisir.
À bientôt.